Bonjour, Marco, Comte à rebours. Compte à rebours sur CFM, comme toutes les semaines, tous les mercredis, c'est rediffusé le dimanche, des contes, des histoires, des légendes, toutes sortes, des nouvelles même. D'ailleurs un auditeur m'écrit, il me dit « c'est bien joli, des contes, mais ils sont vraiment à rebours, parce que souvent, c'est plutôt un vieux chinois. On a l'impression que plus c'est vieux et plus c'est chinois, plus c'est bien. » Alors, il n'y a jamais des contes régionaux. Alors, je lui répondrai que sûrement, si je vais chez lui, sa machine à laver est allemande, sa tondeuse japonaise et son... voilà, et il a tout un tas de trucs chinois. Et il voudrait garder les comptes régionaux. Bon, là, je dis pas qu'ils sont pas intéressants, mais c'est la mondialisation de la culture aussi. Attention. Ceci dit, pour quand même le satisfaire, on va faire un vrai conte régional. Et attendez, parce que on a quand même eu la chance d'avoir des gens qui ont collecté, c'est-à-dire des gens qui ont écouté ceux qui comptaient à l'époque où il y avait encore une tradition orale. Ça se passait, eh bien, au 18e, 19e et début du 20e siècle, il y a des gens qui ont écouté et qui ont collecté, qui ont écrit les histoires. Notamment un célèbre Jean-François Bladet qui a collecté beaucoup de contes de Gascogne. Et là, j'en ai choisi un. Bon, il avait plein d'informateurs, de gens qui l'écoutaient. Puis il notait, à l'époque, il n'y avait pas de magnétophone. Certains, ils s'en méfiaient parce qu'ils voulaient des choses quand même authentiques, des histoires qui se racontent depuis des centaines d'années, qui soient vraiment des histoires du cru. Eh bien, ce qui est étonnant, c'est que on voit quand même les influences, et notamment, il y a beaucoup de contes qui ont une influence, comme il dit, gréco-latine. Et en l'occurrence, c'est le cas de cette histoire d'aujourd'hui, puisque nous avons un cyclope, et quelqu'un qui échappe au cyclope, et un peu à la manière d'Ulysse dans l'Odyssée. Donc, voilà l'influence, mais c'est un conte du Gers traditionnel qui a été collecté à Lectoure, enfin bref, à la fin du 19e siècle. C'est un vrai conte d'ici, et il s'intitule « Le Bécute ». Alors, pour ceux qui ne savent pas, le bécute, c'est celui qui a un bec, hein, mais là, en l'occurrence, c'est un gros bec, hein, c'est plutôt les ogres, les bécutes, c'est plutôt des monstres, c'est plutôt ceux qui bouffent. Et en l'occurrence, celui-là, il n'a qu'un seul œil, c'est donc un cyclope. Voici l'histoire du bécute. Il y avait une fois une pauvre veuve qui vivait dans sa maisonnette avec ses deux enfants, un garçon et une fille. Le garçon marchait sur ses 13 ans. Il était déjà fort, hardi, avisé comme pas un. La fille n'avait pas encore 10 ans. Elle était jolie comme un cœur et sage comme une sainte. Au bout de 7 ans passés, le garçon dit à sa mère « Mère, de l'aube à la nuit, moi, vous, ma sœur, nous nous tuons à travailler pour gagner tout juste de quoi manger du pain. Je veux aller chercher fortune. Mère, je veux aller au pays des bécutes, ramasser des cornes d'or, des cornes de bœuf et de mouton. » « Non, Mon ami, je ne le veux pas. Les Bécutes demeurent loin, bien loin du côté du soleil couchant. Ils demeurent dans un pays sauvage et noir, dans un pays de hautes montagnes, où les gaves tombent de 3000 pieds. Là, il n'y a ni prêtre, ni église, ni cimetière. Les Bécutes sont des géants grands de 7 toises. Ces géants n'ont qu'un œil, juste au beau milieu du front, tout le long du jour. Ils gardent leurs bœufs et leurs moutons aux cornes d'or et ramènent ce bétail dans les cavernes le soir au coucher du soleil. Quand ils attrapent un chrétien, ils le font cuire vivant sur le grill et l'avalent d'une bouchée. Non, mon ami, tu n'iras pas chercher fortune, tu n'iras pas chercher des cornes d'or, des cornes de bœuf et de mouton dans le pays des Bécutes. Mère, excusez-moi. Cette fois, vous ne serez pas la maîtresse. Alors, la jeune fille parla. Mère, vous le voyez, mon frère est un têtu, puisqu'il n'écoute pas la raison. Je veux partir avec lui. Comptez sur moi pour le garder de tout malheur. Par force, la pauvre mère dit oui. Tiens, ma fille, prends cette petite croix d'argent et ne t'en sépare ni jour ni nuit. Elle vous portera bonheur. Partez donc, pauvres enfants, partez à la grâce du bon Dieu et de la Sainte Vierge Marie. Le frère et la sœur saluèrent leur mère et partirent, le bâton à la main, la besace sur le dos. Pendant 7 mois, ils marchèrent de l'aube à la nuit, du côté du soleil couchant, vivant d'aumône et dormant dans les étables par charité. Enfin, ils arrivèrent dans un pays sauvage et noir, dans un pays de hautes montagnes où les gaves tombent de 3000 pieds. Là, il n'y a ni prêtre, ni église, ni cimetière. Là vivent les Bécutes, des géants hauts de 7 toises. Ces géants n'ont qu'un œil juste au beau milieu du front, tout le long du jour. Ils gardent leurs bœufs et leurs moutons aux cornes d'or et ramènent ce bétail dans les cavernes le soir, au coucher du soleil. Quant à faire bonne chère, la viande ne leur manque pas. Pour dîner, ils tuent un bœuf, pour souper, un mouton. Mais ils ne font aucun cas des cornes d'or et les jettent. Et quand ils attrapent un chrétien, ils le font cuire, tout vif, sur le grill et l'avalent d'une bouchée. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, le frère et la sœur cherchèrent des cornes d'or dans les montagnes, se cachant comme ils pouvaient sous les buissons, parmi les rochers, pour n'être pas vus des Bécutes. Au bout de 7 jours, leur besace était pleine. Assis, tous deux, au bord d'un gave, ils comptaient. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100 cornes d'or. Et maintenant, nous sommes assez riches. Demain, nous retournerons chez notre mère. En ce moment, le soleil baissait. Un Bécute passa, chassant devant lui ses bœufs et ses moutons aux cornes d'or. « Le Bécute, Sainte Vierge, ayez pitié de nous !» Ils jetèrent leurs besaces et partirent au grand galop. Mais le Bécute avait tout vu. Il les prit, les jeta dans son grand sac et repartit jusqu'à sa caverne fermée d'une pierre plate du poids de 100 quintaux. D'un coup d'épaule, le Bécute écarta la pierre, compta son bétail, le poussa dans la caverne et referma l'entrée. Cela fait, il secoua son grand sac à terre. « Petit chrétien, soupez avec moi. »
« Avec plaisir, Bécute. »
Le Bécute jeta une demi-stère de bûche dans l'âtre, alluma le feu, saigna un mouton, l'écorcha, jeta la peau et les deux cornes d'or dans un coin et embrocha la viande. « Petit chrétien, tournez la broche !»«
Bécute, tu seras obéi !»
Tandis qu'il tournait la broche, le Bécute posait sur la table un quintal de pain et 7 grandes cruches de vin. « Petit chrétien, asseyez-vous là. Ne vous laissez manquer de rien et contez-moi des choses de votre pays. » Le garçon savait fort ce beau conte. Il parla jusqu'à la fin du souper. « Petit chrétien, je suis content de toi. Maintenant à ton tour, petite chrétienne. » La jeune fille savait fort ce belle prière à l'honneur du bon Dieu, de la Sainte Vierge et des saints. Mais au premier mot, le Bécute devint tout bleu de colère. « Oh, carogne, tu pries Dieu, attends, attends !» Et aussitôt, le Bécute saisit la jeune fille, la dépouilla de ses habits, la coucha sur un grill et la fit cuire, toute vive, à petit feu. « Petit chrétien, que dis-tu de cette grillade? Tout à l'heure, je t'en donnerai ta part. »
« Non, Bécute, les chrétiens ne se mangent pas entre eux. »
« Petit chrétien, regarde, voilà ce que je ferai de toi demain, quand tu m'auras dit tous tes beaux contes. » Le garçon était blanc de colère, mais il ne pouvait rien contre le Bécute. Il regardait sa sœur grillée, toute vive, à petit feu. La pauvrette serrait dans sa main droite la petite croix d'argent dont sa mère lui avait recommandé de ne se séparer ni nuit ni jour.
« Mon Dieu !» criait-elle, « ayez pitié de moi, Sainte Vierge, à mon secours !»«
Oh, carogne ! Tu pries Dieu même en criant toute vive. Attends, attends. » Et d'une bouchée, le Bécute l'avala toute vive. Puis se coucha par terre le long de l'âtre. Petit chrétien, conte-moi des contes de ton pays. Le garçon parla jusqu'à minuit. De temps en temps, le Bécute l'interrompait. Petit chrétien, attise le feu, j'ai froid. Une heure après minuit, le Bécute, plein de viande et de vin, ronflait comme un orage. Alors, le garçon pensa, « Maintenant, nous allons rire. » Doucement, bien doucement, il s'approcha de l'âtre, empoigna un tison rouge et pointu, et le planta de toute sa force dans l'œil du Bécute. Ah !
Le Bécute était aveugle dans la caverne. Il courait comme un possédé du diable, criant à se faire entendre de 100 lieues. « Mille dieux, milliards de dieux, je suis aveugle, je suis aveugle !»
Le garçon était caché sous la litière parmi les bœufs et les moutons et il riait. Au cri du Bécute, ses frères se réveillèrent dans leur caverne. « Oh, 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 qu'est-ce ceci? Qu'est donc tout ceci ?» Et les Bécutes accouraient dans la nuit noire de toutes les montagnes avec des lanternes grosses comme des tonneaux, avec des bâtons hauts comme des peupliers. « Oh, 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 qu'est ceci? Qu'est donc tout ceci ?» D'un coup d'épaule, ils écartèrent la pierre de San Quento qui fermait l'entrée de la caverne, où l'autre criait toujours « Mille dieux, milliards de dieux, je suis aveugle, je suis aveugle !» Frère, qui t'a mis en cet état ?
Frère, c'est un petit chrétien. Cherchez-le partout dans la caverne. Cherchez que je l'avale tout vif. Mille dieux, milliards de dieux, je suis aveugle, je suis aveugle. Les mécutes cherchaient partout, sans rien trouver. Tandis que le garçon riait caché sous la litière, parmi les bœufs et les moutons aux cornes d'or. Cherchez, frère, cherchez bien. Mais à la fin, les bécutes se lassèrent. Adieu, frère, tâche de dormir. Nous reviendrons demain. Les bécutes refermèrent à la caverne et partirent. Alors, le garçon tenta de renverser d'un coup d'épaule la pierre de San Quinto qui fermait l'entrée de la caverne. Mère de Dieu, ce travail passe ma force. Le bécute écoutait. « Je t'entends, petit chrétien, je t'entends, canaille. Patience, tout aveugle que je sois, tu ne m'échapperas pas. » Pendant 3 jours et 3 nuits, le garçon, le bécute et son bétail demeurèrent dans la caverne sans manger ni boire. À la fin, les bœufs et les moutons aux cornes d'or criaient de soif, de faim. « Attendez, pauvre bête, je vais vous ouvrir la caverne. Mais toi, petit chrétien, c'est autre chose. Patience, canaille, tout aveugle que je sois, tu ne m'échapperas pas. » Pendant que le bécute cherchait à tâtons l'entrée de la caverne, le garçon s'ajustait les cornes d'or et la peau du mouton saignée depuis 3 jours. Enfin, la pierre de San Quinto tomba. « Doucement, pauvre bête, doucement !» criait le bécute. « Vous, bœufs, passez les premiers, et un par un !» Il s'assit dehors, sur le seuil de la caverne. Les bœufs passèrent les premiers, un par un, tandis que le maître le tâtait leurs cornes de leur tête et le pelage de leur dos, et il comptait. Maintenant, à vous, mouton, passez un à un. Après les bœufs, les moutons passèrent un à un, tandis que le maître tâtait leurs cornes de leur tête et la laine de leur dos. Il comptait 1, 2, 3, 4. Parmi les moutons, le garçon attendait à 4 pattes. Son tour venu, il arriva sans peur ni crainte. Mais le bécute se méfiait. En tâtant la laine du dos, il comprit que la peau s'ajustait mal. « Oh, petit chrétien, canaille, attends, attends !» Mais le garçon décampa plus vite que le vent. Le bécute criait à se faire entendre de 100 lieues. « Malheur ! Le petit chrétien m'échappe ! Au secours, frère ! Au secours !» Mais les frères ne verront pas. Alors le bécute se coucha de tout son long en dehors de la caverne. Caché tout près, au bord d'un gave, le garçon écoutait et regardait. Depuis 3 jours et 3 nuits, le bécute souffrait d'une grande envie de vomir. Dans son estomac, la jeune fille avalée vivait encore par la vertu de la petite croix d'argent dont sa mère lui avait commandé de ne se séparer ni jour ni nuit. Enfin, le bécute eut un hoquet terrible et vomit tout ce qu'il avait dans le corps. Parmi les vomissures, la jeune fille, nue, gisait, encore vivante. Doucement, bien doucement, le garçon emporta sa sœur, la baigna dans le gave et la couvrit avec la peau de mouton. « Hardi, ma sœur, au galop !» 1 heure après, ils avaient retrouvé leur besace pleine de cornes d'or. 7 jours plus tard, ils étaient hors du pays des bécutes. Ils étaient dans une ville grande et belle comme Toulouse. Le garçon entra dans la boutique d'un orfèvre. « Bonjour, orfèvre. Veux-tu m'acheter cette corne d'or ?»« Oui, mon ami, je t'en donne 1000 pistoles. » Avec les 1000 pistoles,
Le garçon se choisit de beaux habits et fit vêtir sa sœur en demoiselle. Il acheta un cheval superbe, avec la bride et la selle, et sur le devant de sa monture, il chargea les deux besaces pleines de cornes d'or. « Vite, ma sœur, saute en croupe !» La jeune fille obéit, et le cheval partit au grand galop. 7 mois après, ils arrivaient à la maisonnette de leur mère. Le garçon vida son sac à terre. « Bonjour, mère, voici 99 cornes d'or. » 99 cornes de bœuf et de mouton ramassées au pays des Bécutes. Nous sommes riches, vivons heureux. L'heure est venue de nous quitter, hein. Ça a été rapide, on n'a pas pu bien profiter de la musique de fin qui était de Chaman. Il y avait aussi une autre musique de Chaman, un groupe local. Il y avait une musique aussi de deux musiques de Johann Frances Tisner, un gars du Béarn justement. Et puis une petite musique d'Ambrogine, voilà, c'était le Bécut, ce conte de Gascogne, célèbre, où on voit quand même l'influence de la religion chrétienne, bien que l'origine soit quand même très pré-chrétienne, puisque c'est la même histoire que dans Ulysse, hein. Voilà, le Bécut, eh bien, on aura d'autres occasions de raconter. Maintenant, c'est trop tard, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco, compte à rebours. Ciao.